Bien, donc nous entamons cette dernière session en écoutant Pierre-Marc de Biasi, qui n'est guère besoin de présenter. Il a porté ce projet avec Barbara, donc nous lui devons beaucoup. Et je rappellerai seulement à sa biographie tout à fait passionnante de Flaubert, récemment parue. Et je lui cède tout de suite la parole.
Merci Philippe. Alors, je proposais un thème très large et qui, au fond, pourrait servir de base de discussion pour nos projets futurs sur l'image, en essayant de poser la question de Flaubert et de la théorie de l'image. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il serait bon qu'on s'interroge sur ce que c'est qu'un effet de théorisation dans un corpus comme celui de Flaubert, qui est à la fois un corpus littéraire, un corpus dont on sait bien aujourd'hui qu'il est, pour une très large part, constitué de manuscrits de travail, de documents de recherche, qui sont parfois très liés à l'œuvre et puis parfois tout à fait indépendants de l'œuvre, et dans lesquels on va sonder quelque chose qui est une pensée de l'écrivain, qui a pratiquement son autonomie par rapport à l'œuvre, qui entre en résonance avec l'œuvre, mais qui constitue quelque chose comme une sorte de philosophie de l'écrivain. Je crois que c'est une des raisons qui ont rapproché l'équipe allemande et l'équipe française, c'est l'intérêt pour la littérature flaubertienne, mais aussi au-delà de la littérature flaubertienne, pour la pensée flaubertienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'un effet de théorie comme cela? C'est important de se poser la question parce que on le voit, pour avancer dans la connaissance de ce corpus théorique, on a tendance à aller chercher des références constituées, Flaubert également, dans son travail. On peut en trouver la trace dans de grands ensembles manuscrits, mais ce qu'il faudrait sans doute arriver à faire, c'est à préciser le mode par lequel Flaubert constitue son propre système intellectuel à travers ces différents emprunts. Or, ce mode me paraît assez différent de ce qui peut être pratiqué par d'autres écrivains. On peut, par exemple, assez facilement dessiner l'espace de référence intellectuelle, philosophique ou ésotérique de Balzac. Un certain nombre de corpus permettent de dire à quoi croit Balzac. Il est beaucoup plus difficile de dire à quoi croit Flaubert. Et pour une raison qui tient au fait sans doute que ce système théorique peut être caractérisé comme une sorte de travail en évolution qui semble à la fois éclectique, expérimental, logique, axiomatique et technique. Alors, je m'explique. Il n'y a pas de cas où Flaubert dit « je crois à ceci ». Mon adhésion à tel système de pensée ou à telle configuration intellectuelle est totale. Son rapport est très souvent critique. Et par rapport à notre problématique globale qui est donc « voir, croire, savoir », si ces trois notions informent en effet réellement le monde intellectuel flaubertien, c'est aussi, il faut se le représenter, au sens où pour Flaubert, cela se traduira par la signification de faire voir, faire croire et faire savoir. C'est-à-dire que il y a comme une mobilisation permanente du travail intellectuel de Flaubert dans le cadre d'une technique de l'écriture qui dépasse les besoins de l'œuvre. C'est ce qu'il appelle bien penser pour bien écrire. Mais c'est bien écrire qui l'importe, hein, qui lui importe. Au fond, tout se passe un petit peu comme si, dans son exploration encyclopédique des savoirs et des systèmes, Flaubert mettait les systèmes à l'épreuve des réquisites personnelles à travers une sorte d'aller et venu ou d'aller et retour entre l'exigence d'une élucidation de ce qu'il y a de plus personnel, de plus singulier, le moi, les contradictions du moi, les singularités pathologiques du moi, dans son cas, et de ce qu'il y a de plus général, de plus radicalement universel, l'idée d'un art, d'une prose, qui serait capable de traverser le temps, et qui constituerait, pour le roman en tout cas, l'accession au statut d'œuvre d'art. Alors je crois que dans cet aller-retour entre du très singulier, de l'infiniment singulier, une revendication de l'unique, de l'individu absolu, qui est probablement au cœur de la philosophie de Flaubert, et cette volonté d'ouverture vers une généralité qui s'ouvre à l'autre, au lecteur comme dépositaire du sens de l'œuvre, se construit une relation nouvelle au théorique qu'on pourrait, d'une vieille expression des années 70, qualifier de pratique théorique. C'est éclectique au sens où il n'y a aucun... il y a la volonté de ne filtrer cette exploration par aucun préjugé, aucun préalable. Et il y a une certaine pragmaticité à cette recherche, dont les carnets, par exemple, sont tout à fait la preuve. Mais ce qui caractérise cette pragmaticité, c'est qu'elle est liée néanmoins à une sorte de volonté axiomatique, de volonté de logique complète, la non-contradiction étant un des traits qui s'observe dans la manière dont Flaubert progressivement s'empare de domaines de plus en plus larges. Une cohérence systématique, au fond, qui permettrait de passer de la dimension individuelle à la dimension universelle, en restant lié à de l'expérimental. C'est-à-dire, c'est aussi une chose qui est frappante dans la plupart des notes de recherche de Flaubert, la volonté de mesurer l'efficacité effective de la pensée, de l'idée, de la notion, du concept sur une pratique qui est celle de l'écriture et notamment de la prose romanesque. Donc il y a bien un travail de conceptualisation théorique qui se forme à l'intérieur d'un champ qui se veut expérimental, d'une expérimentation qui est propre à la technique de l'écrivain, mais qui s'intéresse aussi à la technicité en tant que telle, et je dirais presque à la médiologie, c'est-à-dire qui est avant la lettre, qui s'intéresse à la question de l'actualité du sens d'écrire à l'ère des bouleversements techniques de l'écrit. Qu'est-ce que c'est que vouloir faire du roman une œuvre d'art à l'âge de la pensée scientifique et à l'âge de la démocratisation des médias, spécifiquement à l'ère d'une mutation sans précédent du régime allographique et du statut technique de la mimesis. Je crois que la photo reste un élément décisif pour nos travaux sur l'image, mais je pense aussi qu'il faudra prendre très au sérieux la question permanente chez Flaubert est cruciale dans son métadiscours sur l'image de cette prise de conscience qu'il est un des premiers à formuler avec Baudelaire peut-être et quelques autres sur la révolution des représentations qui est en train de s'amorcer. Quelle mutation ? La mutation, rappelons-la, elle est considérable, elle est colossale, elle est celle qui par le papier pas cher, par la presse rotative à grande vitesse, par la photographie, la photogravure, l'héliogravure, se traduit entre la première moitié du siècle et la deuxième moitié du siècle par un changement d'échelle radicale, ce qui se publiait à quelques milliers d'exemplaires se publie à 1 million d'exemplaires dans la presse en fin de siècle. Et je crois que toutes les questions, comme celle de l'autonomie, évidemment, de l'artiste, mais même plus spécifiquement comme celle, dans le cadre de l'image, du refus de l'illustration, sont à mesurer à l'échelle de cette brusque transformation de quantitative d'échelle. Donc, la question de l'illustration n'est pas seulement une affaire qui porte sur la sédimentation du sens, la fossilisation du mouvement. Je crois que dans ce domaine-là, beaucoup de choses ont déjà été dites, sont à peu près acquises sur la notion de l'importance du flou, etc. En revanche, il reste à comprendre ce que cette exigence partage avec le refus d'un certain nombre d'intellectuels, de créateurs de l'époque, d'une sorte de remise en cause de l'ascendant verbal par une culture de la prolifération de l'image qui est en train de naître. C'est sûr que Flaubert n'est pas McLuhan, mais dans ses pires cauchemars, d'une certaine façon, il n'est pas très loin d'entrevoir le risque formé par McLuhan, formulé par McLuhan, d'un monde où le sens verbal en viendrait à une certaine forme d'extinction sous la pression d'un sens visuel, sous la prolifération hégémonique des images, par artefact, qui détruisent la culture de l'image verbale. Alors, c'est une des questions, je pense, posées par cette problématique du voir, croire, faire croire, et savoir constituer dans le système flaubertien. Dans un système, encore une fois, qui est en permanence expérimental et technique. Alors, où se trouvent les métadiscours flaubertiens sur l'image ? Ben, comme les autres, on les trouve dans les carnets de travail, dans les carnets de voyage, dans les dossiers de notes documentaires, dans les scénarios aussi, dans les notes de régie de scénario notamment. C'est clair qu'il y a là souvent des révélations sur le statut de l'image dans ce qui va être le texte. Je pense par exemple dans les travaux que j'avais pu faire sur Saint-Julien, par ce que peut révéler en quelques mots dans le folio 492 du scénario initial de Julien, les mots qui désignent la structure visuelle à travers laquelle tout va s'écrire, qui est une structure axonométrique, où il est dit voir tout comme dans un plan et qui indique une sorte de règle pour l'écriture des descriptions qui vont suivre les modèles pré-perspectifs. Alors, ce discours qui se systématise en théorie donc traverse de façon non cumulative, de façon très éparse, mais de manière évolutive néanmoins, ces dossiers, et bien sûr traverse aussi la correspondance. Alors, je me suis livré à une petite enquête pour cet exposé, à peu près exhaustive, dans la correspondance sur les résultats que donne une recherche sur le mot « image ». Et les résultats sont assez curieux. Ils sont intéressants, ils sont un peu surprenants. Intéressant, je crois qu'il faut en tenir compte, le mot « image » pour Flaubert n'a pas exactement le même sens que pour nous, aujourd'hui, et en raison des risques qu'il avait entrevus. Nous sommes plongés dans un monde saturé par les images, par des artefacts d'image. Et quand nous parlons d'image, nous parlons de ce monde. Pour nous, l'image, c'est un sens très large, c'est un sens englobant, à la fois objectif et subjectif, mais enfin surtout ressenti en termes d'extériorité. Les photos, les images, les images télévisuelles, cinématographiques, toutes les images. Pour Flaubert et pour son époque, le mot image désigne essentiellement le sens interne, l'image mentale. C'est exceptionnel dans la correspondance et dans les manuscrits que le mot image soit utilisé pour parler d'un tableau ou d'une gravure. Il dira tableau, gravure. Ça arrive quelquefois, mais c'est très rare. L'image d'un tableau, c'est le tableau dans l'esprit. Au fond, cette puissance du sens interne de l'image, qui associe d'ailleurs la spatialité de l'image à la temporalité, en tant que sens interne, et je crois la première remarque à faire. La seconde, qui est curieuse aussi, c'est que pour plus de la moitié des occurrences, le mot image, vraiment c'est la majorité, hein, 40 sur 70, le mot image est pris, il se rapporte directement au sens amoureux et érotique. C'est ton image, ou mon image, ou son image, c'est l'image du corps de l'autre, du corps aimé, du corps désiré. Dans des sens qui peuvent être variables, mais qui sont à la fois la trace mémorielle, l'évocation spontanée, le fantasme, l'objet de rêverie, plus ou moins obsessionnel, plus ou moins quotidienne, le double ou le substitut de la personne réelle. Alors, pour des raisons qui tiennent sans doute à l'élimination des lettres à Juliette, qui auraient sans doute été pleines d'occurrences, mais qu'on ne possède pas, la plupart de ces occurrences portent sur la relation à Louise. Je ne vais pas vous lire tout, parce qu'il y en a plein, mais c'est la résonance la plus puissante du mot image dans toute la correspondance. Ton image me restera tout imbibée de poésie et de tendresse, comme l'était hier la nuit, etc. Sais-tu que je vais finir par ne plus pouvoir vivre sans toi? La tête parfois m'en tourne, ton image m'attire, me donne le vertige. Et puis il y a l'interrogation auprès de la personne aimée de ce qu'elle ressent quant à mon image. Et moi, dis-moi comment je t'apparais, de quelle façon mon image vient-elle se dresser sous tes yeux? Je voudrais que mon image de te brûler te réchauffe, etc., etc. Jusqu'au détail très privé, quand même un détail très privé pour le plaisir. Maintenant je pose ton doigt à une place secrète, ta pensée sur un coin caché et qui est plein de toi-même, et je vais m'endormir avec ton image et en t'envoyant 1000 baisers. À toi, ton Gustave. Alors, l'image, donc de façon dominante, est dans le désir. On retrouvera, en dehors du cas de Louise, une présence forte aussi du mot image pour parler, par exemple, de Kutchouk, en Égypte. À Eichner, j'ai revu Kutchoukalem, ça a été triste, je l'ai trouvé changé, elle avait été malade, le temps était lourd, il y avait des nuages, sa servante d'Abyssinie jetait de l'eau par terre pour rafraîchir la chambre, je l'ai regardée longtemps afin de bien garder son image dans ma tête. Et puis, dans le voyage en Égypte, aussi le fait que l'image des prostituées est plus belle que l'usage des prostituées, et qu'il faut donc s'abstenir pour pouvoir garder intacte l'image Eh bien, j'ai résisté, exprès, par parti pris, afin de garder la mélancolie de ce tableau et faire qu'il resta plus profondément en moi. Aussi, je suis parti avec un grand éblouissement et que j'ai gardé. Il n'y a rien de plus beau que ces femmes vous appelant « Kawada, Kawada ». Si j'eusse cédé, une autre image serait venue par-dessus celle-là et en aurait atténué la splendeur. Donc j'arrête là la lecture, mais qui est très, très lancinante et très belle, de la manière dont le mot « image » ressasse le désir et surtout le rapport le rapport du désir au temps, c'est-à-dire la capacité à garder intact le désir dans une représentation secrète qui le laisse vivre. Dans les rapports avec Louise, notamment dans la deuxième période de leur relation amoureuse, où tout va finir par se défaire, la question de l'image est décisive. Et la question, dans le dialogue de plus en plus déchiré entre eux, la question pour Flaubert est de néanmoins conserver intacte l'image. Peut-être juste pour en donner une idée, parmi les dernières lettres, quand ça commence à aller vraiment mal, la chair m'appelait, mais les nerfs me retenaient, et il sortait de tout cela une tendresse qui, s'alimentant par le souvenir, n'avait pas besoin d'épanchement. Je m'étais promis de m'abstenir de toi, tant j'avais éprouvé à ton endroit de sentiments violents et incompatibles entre eux. Je regardais seulement de temps en temps ta chère image, ta belle et bonne figure, par une lucarne de mon cœur restée ouverte. Alors, que nous indique cette grande quantité de d'occurrences érotiques, ou images? Je crois quelque chose de tout à fait décisif par rapport à notre sujet, c'est-à-dire la puissance d'Eros, la puissance du désir qui est logée dans ce mystère d'un va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur qu'est l'image. L'autre grand groupe d'occurrences, et qui est presque toujours sous le rapport d'une figure rhétorique, enfin d'une métaphore, qui est la même, c'est l'explosion des images, le feu d'artifice d'images, les mille pièces d'un feu d'artifice d'images. Alors il y en a moins, c'est moins nombreux, mais c'est très présent. La même expression est utilisée dans la lettre, une des deux lettres à Athènes qui était citée ce matin. Ça se rapporte en général à la crise nerveuse. C'est, je vous lis. Un texte important parce que deux peut-être parce qu'il pose des questions qui ont déjà été structurées ce matin et je crois ça mérite d'entrer en résonance avec ce qui a été dit notamment sur thème. S'il suffisait d'avoir les nerfs sensibles pour être poète, je voudrais mieux que Shakespeare et qu'Homère, lequel je me figure avoir été un homme peu nerveux. Cette confusion est impie. En fait, il parle de Musset. Hein. J'en peux dire quelque chose, moi qui ai entendu, à travers des portes fermées, parler à voix basse des gens à 30 pas de moi. Au passage, tout ce qui, on l'a déjà signalé, je crois que c'est une piste très importante, tout ce qui relève de l'image ne peut pas être mis à trop à distance de l'auditif. On est chez Flaubert dans des cas d'hyperesthésie qui sont un peu en rapport avec la synesthésie baudelairienne, qui se rapportent évidemment à des singularités pathologiques, mais qui renvoient, comme Jacques le disait, par la voix notamment, à une image acoustique véritablement. Donc je reprends. J'en peux dire quelque chose, moi qui ai entendu à travers des portes fermées parler à voix basse des gens à 30 pas de moi, moi dont on voyait, à travers la peau du ventre, bondir toutes les viscères, et qui parfois est senti dans la période d'une seconde, un million de pensées, d'images, de combinaisons de toutes sortes qui jetaient à la fois dans ma cervelle comme toutes les fusées allumées d'un feu d'artifice. Mais ce sont d'excellents sujets de conversation et qui émeuvent, parce qu'ils se moquent de Musset qui en fait un sujet de salon. La poésie n'est point une débilité de l'esprit, et cette susceptibilité nerveuse en sont une, cette faculté de sentir outre mesure est une faiblesse. Je m'explique. Il se trouve souvent des enfants auxquels la musique fait mal. Ils ont de grandes dispositions, retiennent des airs à la première audition, s'exaltent en jouant du piano, le cœur leur bat, ils maigrissent, pâlissent, tombent malades, et leurs pauvres nerfs, comme ceux des chiens, se tordent de souffrance au son des notes. Ce ne sont point là les Mozart de l'avenir. La vocation a été déplacée, l'idée a passé dans la chair où elle reste stérile, et la chair périt. Il n'en résulte ni génie, ni santé. Même chose dans l'art. Alors cette idée de déclivité involontaire d'idées et d'images et des mille pièces d'un feu d'artifice qui est la manière dont structurellement Flaubert parle toujours de ces crises nerveuses revient évidemment à plusieurs reprises dans la correspondance et dans les romans, puisque c'est mis en scène dans Madame Bovary, comme vous le savez. Et là, le pouce a posé une question qui avait été évoquée ce matin, donc je vous lis là, cette seconde citation d'une lettre très célèbre, mais qui nous permet de voir revenir le mot image dans cette configuration et de voir comment cette évocation est suivie d'une réflexion sur les sciences. La folie et la luxure sont deux choses que j'ai tellement sondées, où j'ai si bien navigué par ma volonté, que je ne serai jamais, j'espère, ni un aliéné, ni un sale. Mais il m'en a cuit, par exemple. Ma maladie de nerfs a été l'écume de ces petites facéties intellectuelles. Chaque attaque était comme une sorte d'hémorragie de l'innervation. C'était des pertes séminales de la faculté pittoresque du cerveau, 100 000 images sautant à la fois en feu d'artifice. Il y avait un arrachement de l'âme avec le corps, atroce. J'ai la conviction d'être mort plusieurs fois. Mais ce qui constitue la personnalité, l'être raison allait jusqu'au bout, sans cela la souffrance eût été nulle, car j'aurais été purement passif, et j'avais toujours conscience, même quand je ne pouvais plus parler. Alors l'âme était repliée tout entière sur elle-même comme un hérisson qui se ferait mal avec ses propres pointes. Personne n'a étudié tout cela, et les médecins sont des imbéciles d'une espèce comme les philosophes le sont d'une autre. Les matérialistes et les spiritualistes empêchent également de connaître la matière et l'esprit, parce qu'ils scindent l'un et l'autre. Les uns font de l'homme un ange, les autres un porc. Mais avant d'en arriver à ces sciences-là, qui seront des sciences, avant d'étudier bien l'homme, n'a-t-il pas étudié ses produits, à connaître les effets, pour remonter à la cause? Et donc, clairement, dans l'interrogation que Flaubert construit sur son propre mal et sur les remèdes qu'il y apporte, appelle à une science de la psyché qui serait, dans son esprit, en rapport avec une science des mythes, qui évidemment résonne de façon forte quelques moins d'un demi-siècle avant l'arrivée de la psychanalyse. Et puis, une dernière citation sur cette question qui est cette belle citation, enfin, cette belle lettre où Flaubert donne d'une certaine façon une clé pour comprendre que, vraisemblablement, l'impersonnalité, comme choix théorique et technique d'écriture, a quelque chose à voir avec sa maladie. Vous me demandez comment je me suis guéri des hallucinations nerveuses que je subissais autrefois par deux moyens. Premièrement, en les étudiant scientifiquement, c'est-à-dire en tâchant de m'en rendre compte. Et deuxièmement, par la force de la volonté. J'ai souvent senti la folie me venir, c'était dans ma pauvre cervelle un tourbillon d'idées et d'images, où il me semblait que ma conscience, que mon moi, sombrait comme un vaisseau sous la tempête, mais je me cramponnais à ma raison, elle dominait tout, quoique assiégée et battue, et d'autres fois, je tâchais, par l'imagination, de me donner facticement ces horribles souffrances. J'ai joué avec la démence et le fantastique, comme Mithridate avec les poisons. Troisième série d'occurrences importantes du mot « image » dans la correspondance, ce qui se rapporte aux images mémorielles de l'enfance. Et d'une façon, je n'ai pas eu le temps de mettre tout cela en système, mais tout cela fait système. Et là, on a... On a à plusieurs occasions un retour de Flaubert sur des expériences de relecture de livres coloriés, de livres d'enfants, qui, à mon avis, sont à interroger de façon assez, assez forte par rapport à cette idée d'anamnèse dans l'image. Il y a une formule qui est peut-être celle sous laquelle on pourrait placer la totalité de ces occurrences images, qui est une formule forte, presque une sorte de précepte, qui est la suivante. Ce qui se formule en moi par image, y reste. C'est dans une lettre à Louis Conen, de juillet 1952. Alors, trois cas qui me paraissent vraiment intéressants. Je viens de relire pour mon roman, on est en 52 donc c'est pour Bovary, plusieurs livres d'enfants. Je suis à moitié fou ce soir de tout ce qui a passé aujourd'hui devant mes yeux, depuis les vieux keepsakes jusqu'à des récits de naufrage et de flibustiers. J'ai retrouvé de vieilles gravures que j'ai coloriées à 7 ou 8 ans, et que je n'avais pas revu depuis. Il y a des rochers peints en bleu et des arbres en vert. J'ai rééprouvé devant quelques-unes, un hivernage dans les glaces entre autres, des terreurs que j'avais eues étant petit. Je voudrais je ne sais quoi pour me distraire, j'ai presque peur de me coucher. Il y a une histoire de matelots hollandais dans la mer glaciale, avec des ours qui les assaillent dans leur cabane. Cette image m'empêchait de dormir autrefois, et des pirates chinois qui pillent un temple à idole d'or. Alors là, c'est assez curieux parce qu'il dit « Mes voyages, mes souvenirs d'enfant, tout se colore l'un de l'autre, se met bout à bout, danse avec de prodigieux flamboiements et monte en spirale. » Et ça, c'est une image qu'il utilise d'habitude pour parler de ses hallucinations. Autre citation. Toujours sur les livres d'enfants, mais sur la dimension mémorielle, anamnésique. Et d'ailleurs, est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce que rien se passe? Est-ce qu'on peut se détacher de quoi que ce soit? Les natures les plus légères elles-mêmes, si elles pouvaient réfléchir un moment, seraient étonnées de tout ce qu'elles ont conservé de leur passé. Il y a des constructions souterraines à tout. Ce n'est qu'une question de surface et de profondeur, sondez et vous trouverez. Pourquoi a-t-on cette manie de nier, de conspuer son passé, de rougir d'hier, de vouloir toujours que la religion nouvelle efface les anciennes? Quant à moi, je le jure, devant toi, que j'aime encore tout ce que j'ai aimé et que j'en aimerai une autre, je t'aimerai toujours. Le cœur dans ses affections, comme l'humanité dans ses idées, s'étend sans cesse en cercle plus élargi. De même que je regardais il y a quelques jours mes petits livres d'enfants, dont je me rappelais nettement toutes les images, quand je regarde mes années disparues, j'y trouve tout. Je n'ai rien arraché, perdu, on m'a quitté, je n'ai rien délaissé. Successivement, j'ai eu des amitiés vivaces qui se sont dénouées les unes après les autres. Ils ne se souviennent plus de moi, je me souviens toujours. Donc, l'image, et je pense que la charge érotique dont on parlait au départ est toujours là, est au fond le support du sens interne, le support du rapport à la temporalité, d'un rapport stable à la temporalité. Alors, il y a plusieurs autres citations sur les livres d'enfants qui se rapportent bien entendu aux expériences primitives des lectures de Don Quichotte et des contes de fées. Mais que je vais passer. Ah, j'avais promis à Paul de lui dire, mais je vois que je l'ai pas ça dans mes réserves. Oui, bizarrement, l'image au sens littéraire est assez peu présente dans la correspondance. Il y a quelques cas d'usage, notamment pour les critiques que Flaubert adresse à Louise quand il corrige avec Bouillet les poèmes de Louise. Il y en a aussi quelquefois pour des compliments, parfois très appuyés, et c'est à cette occasion que je voulais citer une très belle lettre de félicitations de Flaubert à Michelet, où il lui fait des compliments sincères, visiblement, mais très précis, et notamment du côté du relief des images. Cette question du relief est je crois, assez fondamentale pour lui, parce qu'on en retrouve l'expression dans tous les cas de théorisation de l'image, comme étant le relief étant, pour l'image, une sorte de résultat réussi du rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Quoi. Malheureusement, j'ai plus la citation là. Alors, je ne sais pas s'il me reste comme temps, chef.
4 minutes et 23 secondes.
D'accord. Alors, si vous voulez, juste quelques indications globales de pistes pour le travail qui nous attend sur les images, du point de vue de cette théorie, constituée, je crois quand même, très largement sur l'expérience pathologique des crises nerveuses et sur sa reprise comme sa conversion en pouvoir, sa conversion en puissance d'écriture. Et là, on a eu une analyse de quelques éléments des lettres de Taine ce matin, mais je crois que ces deux lettres mériteraient véritablement un travail très approfondi parce qu'elles contiennent certainement une grande partie de l'état majeur, quoi, de la théorisation de Flaubert sur l'hallucination. Elle permettrait de donner sans doute un peu de fermeté à l'analyse de concepts comme la rêverie, la rêvasserie, rêver, qui sont des concepts, des notions très importantes dans la correspondance et puis dans les métadiscours, mais assez ambivalentes, quoi. C'est-à-dire, il y a une rêverie active, une rêverie passive, et ça fait partie des chapitres sur lesquels il y a encore, je crois, beaucoup à travailler. Je crois qu'un des chapitres de la recherche sur cette théorie d'image devra porter sur la notion de source des images, le fait d'aller aux sources des images, le rôle des voyages. Les notes de voyage sont, que je vais publier là donc au seuil cette année, les notes de voyage sont des pense-bêtes à images. C'est certainement en très grande en très grande partie. Pas seulement le voyage en Orient, tous les voyages. Et bien sûr, celui d'Afrique, celui pour Salambo, mais au fond, toutes les enquêtes sur le terrain, les repérages, on a sans doute encore des choses à comprendre sur le cas Bruegel, sur le cas de la tentation, qui est quand même on a remarqué cette chose étrange qui est le décalage temporel qu'il y a entre le moment où Flaubert voit le tableau au Palais Balbi de Gênes et le moment où il le décrit de mémoire presque 15 jours plus tard ce qu'on pourrait appeler presque la gestion de l'image anamnésique chez Flaubert. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre du différé. La question de l'écriture sur le motif devrait être posée. Elle se pose par beaucoup d'aspects dans les carnets de travail et elle est liée visiblement à ce que Flaubert appelle l'exigence de se laisser pénétrer par l'objectif. Mais l'autre formulation est la nécessité de faire poser un modèle imaginaire. Écrire sur le motif implique aussi l'examen des relations entre l'atelier et le cabinet de travail. Flaubert n'écrit pas que sur le motif, et même il se méfie quand même beaucoup de l'écriture sur le motif. Il est, par certains points, comparable aux nouveaux peintres qui utilisent les techniques du tube de couleur pour pouvoir sortir et travailler dehors, mais il continue à utiliser l'atelier, le silence et la clôture de l'atelier, comme le peintre traditionnel utilisait l'atelier de l'ancienne peinture. Bien sûr, les scénarios, la rêverie conceptionnelle, l'invention et le statut du « je vois la mer morte hein, » au début de l'écriture d'Hérodias, ou même avant l'écriture d'Hérodias, mais aussi cette étrange inversion des choses qui est que si l'image incitative est comme une image donnée, comme on peut parler d'un verre donné, elle est souvent aussi liée à l'idée de vérification. Et vous souvenez que dans les carnets de repérage où il cherche désespérément la maison de Bouvard Pécuchet, il en a une idée, une image préconçue, préétablie, nécessaire, et qu'il faut néanmoins 3 voyages pour s'assurer que dans la réalité elle existe. J'ai dit 3 mots sur leur flux de l'illustration. Il y a dans la problématique de l'image fixe de la photographie et des ambivalences de Flaubert à la photographie, beaucoup à chercher du côté des relations entre ce qui se joue dans l'imaginaire des féeries, dans l'imaginaire du conte oriental, d'images mobiles rêvées par Flaubert, de technologie même de l'image mobile, d'une syntaxe de l'image mobile, par opposition à la technique photographique. Et se demander ce que signifie Flaubert quand il dit, un petit peu comme s'il voulait compléter et contredire Roland Barthes, de la photographie, ce n'est jamais cela qu'on a vu. Alors je crois, je terminerai par là, que je crois que dans la volonté intellectuelle de systématisation, de théorie, de théorisation de Flaubert, il y a quand même avant tout la volonté d'établir des moyens créatifs, des techniques de création. Et une des choses que la genèse des textes nous apprend de façon assez, assez nouvelle, c'est la manière dont le caractère diachronique de l'écriture peut, par certains systèmes inventés par Flaubert, se redéployer en termes de synchronie. Je vais parler par là des cas d'écriture du subliminal, de l'image subliminale, qui est distribuée dans l'avant-texte par une mise à plat de l'avant-texte. Quand, dans l'éducation sentimentale sur laquelle je travaille en ce moment pour la Pléiade, on voit que sur les 45 000 mots du texte, certains mots sont utilisés par binôme pur, c'est-à-dire Flaubert gère leur présence à 250 pages de distance comme des polarités. On est en face d'une technique d'écriture qui ressemble beaucoup au travail du peintre qui place des touches d'un bout à l'autre de l'épure de son tableau pour créer une tension, une puissance, par exemple, de lumière. Mais cela suppose un rapport tout à fait nouveau à l'écriture. Voilà.
Merci beaucoup pour cet exposé qui fait la transition du projet fractal au projet Fides. J'aurais une question pour ma part, simplement peut-être une précision sur la... savoir s'il y a une chronologie que l'on pourrait établir liée au sens. Au fond, tu l'as dit pour le sens amoureux qui se concentre autour de la liaison avec Louis Collet. Alors, est-ce que pour les deux autres séries, celle du feu d'artifice d'image ou celle de l'image comme anamnèse, il y a des moments où ça se concentre ou au contraire, ce sont des sens que l'on retrouve tout le long de la correspondance?
Non, là, je crois que c'est vraiment, ça se distribue sur toute la vie de Flaubert, mais... Pour l'image érotique, de toute façon, j'ai pris la précaution de dire que
on n'a pas toutes les lettres.
On n'a pas toutes les lettres, hein, et ouais. Vraisemblablement qu'il y a quelque chose de comparable qui laisse jouer avec d'autres amours importants de Flaubert. Mais pour le, non, pour, tu vois, par exemple, c'est présent dans la lettre à Thènes en 66, il en parle en 52, il en parle, c'est distribué au fond sur la maturité, quoi.
C'est vrai que pour le feu d'artifice, on peut penser aussi à Jules dans la première éducation sentimentale. Enfin, toute la fin, enfin, la poétique de Jules, c'est une poétique du feu d'artifice d'image.
Là, on est vraiment en tout près de la crise nerveuse. Ouais. Il y a un cas d'ailleurs assez curieux, c'est qu'il utilise la même figure pour parler de son premier rapport à l'Orient. C'est-à-dire quand il débarque en Orient, il dit... c'est comme si j'avais été transporté dans une symphonie de Beethoven, je crois, c'est un très beau texte, et on retrouve cette idée de feu d'artifice sonore, là, pour le coup, mais l'expression est là, pour en parler. C'est comme si l'Orient jouait un rôle par rapport à la vie en Occident, aussi... aussi perturbant, quoi, que l'expérience même de la crise.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Comment est la tendresse intellectuelle de Roland Barthes? Ce n'est jamais cela qu'on a vu. Roland Barthes dit que ça a été, mais pas on l'a vu.
Oui, bien sûr,
c'est comme on l'a vu, comme c'était. C'est-à-dire simplement, hein, ça a été.
C'est bien.
Cette théorie de la photographie, c'est une autre histoire. C'était juste, tu connais ma fidélité.
Ah oui, oui. Oui, mais je veux seulement dire qu'il y a quelque chose dans la formulation qui se présente un peu de la même façon.
Juste pour...
Donc, Jürgen,
j'aurais peut-être une question qui concerne la relation entre disons, l'image mentale et l'image extériorisée. D'un côté, je suis tout à fait convaincu puis ça s'impose à partir de la correspondance de formuler l'image mentale et aussi l'image biographique. Ça ressort chez Flaubert. Mais en même temps, il paraît qu'il y a une tension entre ce versant de l'image et ils ont, ce que vous avez mentionné vous-même, une culture de l'image massifiée en train de naître. Donc, j'aimerais savoir un peu plus sur cette tension-là et peut-être aussi sur que c'est aussi une question méthodique, mais dans la mesure où peut-être il y a chez Flaubert une théorie de l'image qui n'est pas formulée expressis verbis. On ne peut pas trouver ni dans la correspondance ni dans les avant-textes.
Oui, oui, je pense que c'est tout à fait ça. Je n'ai d'ailleurs, par rapport à cette théorie de l'image, que j'ai dit, pris un tout petit champ et une toute petite question à l'intérieur de la correspondance qui permettrait de déployer bien des réponses aux questions que vous posez, notamment sur l'image externe. Il y a d'autres citations aussi que je n'ai pas du tout évoquées. Par exemple, l'opposition entre l'image réelle et l'image fictive chez Flaubert dans la correspondance. Mais en revanche, ce qu'il me semble, intuitivement, je ne peux pas en faire la démonstration, mais c'est qu'il y a à la fois une progression, la volonté d'une sorte d'exploration systématique de la question à travers des supports différents. La correspondance étant un des supports, mais les autres étant les carnets de voyage intensément, les carnets de travail, où on trouve notamment, ça fera plaisir à Gesine, et des choses sur les icônes, sur les idoles et sur l'image et l'Orient, enfin, l'image et l'iconoclasme. Mais il y a une quand même un assez grand nombre, je disais, de cas où l'image est traitée à mi-chemin entre de la théorie et déjà de la technique d'écriture dans les scénarios développés. Et je crois que l'ensemble fait système. C'est ça, si vous voulez, ce qui est curieux, c'est qu'on voit un certain nombre d'options envisagées, explorées, qui sont oubliées ou annulées parce que non cohérentes avec quelque chose de plus important. Et petit à petit, se constitue une sorte de système, de théorie. Mais dont la caractéristique telle que je l'ai ressentie jusqu'à présent est d'avoir pour nécessité d'être toujours capable de tenir à la fois la question de l'ego, la question de mon rapport à l'image, moi, Gustave Flaubert, mon rapport très singulier avec ce sale tour que m'a joué ma configuration nerveuse et les exigences d'une représentation idéale et radicale de l'œuvre. Mais cela dit, que la correspondance soit porteuse d'un type d'usage du mot, oui, bien sûr, c'est clair que c'est là que l'image érotique peut être présente, plus que le sens érotique. Mais quand même, ça m'a étonné, cette proportion dominante. Vous voyez et je pense qu'il faut, en tirer l'idée que dans le mot image utilisé par Flaubert, quelque chose de beaucoup plus lié à l'image mentale quand même et à cette idée d'anamnèse, à cette idée de charge émotionnelle que ce que nous sommes capables de ressentir dans le mot aujourd'hui.
Mary.
Tout simplement pour peut-être lier un peu ensemble et peut-être rajouter ce que Anne Pfeiffer a dit ce matin. J'aimais bien son expression, le polypier des images. Et ce moment où Flaubert écrivait à Alice Coilet et s'intéressait beaucoup aux effets scientifiques, et surtout le polypier est formé par le corps même des polypes. Donc je crois que là-dedans, il y a aussi des questions plutôt métaphysiques, viscérales, dans cette mise en image de
Et c'est une image de Flaubert ? De thème.
Ça m'a fait réfléchir sur cet aspect matériau, psychique, physique,
certes, mais Flaubert l'a pas écrit, quoi, donc pour moi...
Non, c'est tout simplement pour mettre ensemble ce genre de,
ouais.
de façon de, d'aborder la grande question que moi je sais pas.
Oui, oui. Et je, comme je crois que, si vous voulez, sur les métaphores, vraiment, il est très, oui, il est très exigeant, quoi. Donc, et, si vous apportez une métaphore de Taine chez Flaubert pour comprendre Flaubert, bah, c'est que vous pensez que Flaubert croit à Taine, mais il ne croit pas à Taine.
Non, c'était tout simplement une façon de, une figure de.
Oui. Oui, c'est intéressant, bien sûr. Mais
est-ce qu'on peut comprendre Flaubert? Je trouve que c'est une question qui est très intéressante. Parce que, en fait, c'est une question très générale. Par l'intention, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas. Enfin, moi, je suis toujours un peu ahurie. Parce que, bon, on est tous à la longueur, des textes, etc. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on est tombé dans l'intention pure que l'auteur, qui peut être expliquée par. Ce qu'il a mis noir sur blanc, mais non pas seulement dans l'œuvre, parce que dans l'œuvre, on peut encore dire bon, c'est que. Mais par l'intention de ce qui. Ça me frappe.
Ben, je crois qu'une.
Ça me frappe vraiment.
Si tu parles de la théorie de je ne sais pas moi, de la liberté chez Spinoza, il vaut mieux t'occuper des textes de Spinoza, si tu veux, que d'aller chercher ailleurs. Je ne parle pas d'intention, je parle de théorisation. Les théorisations, ce sont des comment dire, dans l'écriture, des moments de statut un peu spécial, quoi, qui peuvent se rencontrer chez un écrivain comme Flaubert sur différents supports, dans différents espaces. Il ne s'agit pas d'intention, il s'agit d'une construction intellectuelle qui.
Oui, mais qui n'est pas toujours mis noir sur blanc, c'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il y
a. Ah, bien sûr. Bien sûr.
Dans l'œuvre.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est-à-dire que, et donc c'est très différent. C'est-à-dire que si on cherche tout le temps à ce qu'il a, enfin, il a écrit, évidemment, enfin, ce qu'il a écrit autour, c'est une espèce de.
Ben, si tu veux, c'est notre boutique. Hein. C'est, on a 30 000 pages de manuscrits à comprendre. Vous, peut-être que ça vous intéresse pas, mais c'est
si,
notre.
Si
ça, ça nous intéresse.
Non, seulement, je trouve que. Non, ça m'intéresse.
Oui.
Mais cette espèce de croix, qu'on puisse tous expliquer. Il faut que ce soit mis, ça me. Je
non.
trouve que ça enlève une dimension absolument fondamentale de l'œuvre. On peut l'appeler inconscient, je n'irai même pas jusque-là.
Mais je ne sais pas pourquoi tu.
C'est de la textualité qui n'est pas toujours. Tout ça, ça veut dire que c'est une espèce de positivisme de trace presque.
Non, mais non, mais non. Mon propos n'était pas de dire qu'il n'y avait de théorisation que dans ces traces, mais que si on veut constituer une sorte de, comment dire, d'inventaire ou de texte de référence de ce que Flaubert a écrit, constitué comme réflexion, on doit les chercher à travers ces différentes. Ça n'exclut pas du tout qu'il y ait d'autres processus, qu'il y ait d'autres fonctionnements. Et on voit bien, par exemple, sur les trouvailles de Paul sur les anagrammes, hein, l'autre jour, là, sur raison et. Eh bien, on trouve nulle part chez Flaubert, jamais, quand il travaille sur les anagrammes, d'essais d'anagrammes. Il les fait de tête. Et donc, tu as parfaitement raison. La plupart des choses importantes ne sont pas dites, elles sont faites. Mais ce que je veux simplement signaler, c'est qu'il y aurait avantage à reconstruire en rassemblant en système ce que Flaubert a pu, comme état de discours, construire autour des choses autour des questions qu'il s'est posées et qu'il a tenté de résoudre. Ça ne veut pas dire qu'on va résumer à cela. Mais ça veut dire que ça serait déjà pas mal de le faire. Et que néanmoins, si je ne trouve aucune trace, nulle part, dans aucun dossier de ces 30 ou 40 000 pages, au sujet de quelque chose que qu'il serait tentant de poser comme hypothèse interprétative, ben là, peut-être que je peux quand même me poser la question de savoir si c'est tout à fait sûr. Tu vois ? C'est...
Non.
Non, mais là, c'est une question de débat. C'est une question de débat critique. Mais si tu veux, c'est un peu ce qui différencie les généticiens, quand même, des herméneutes. Hein. Excuse-moi, mais il y a un moment où... C'est pas du positivisme. C'est que... Il est très rare que une nouveauté, quelque chose d'inédit dans l'écriture, n'ait pas de traces préliminaires.
Mais moi, ça c'est une manière m'a répondu. Je ne suis pas d'accord avec Francis, c'est vrai. Mais est-ce que ça nous explique quoi que ce soit sur le travail du texte? C'est-à-dire que, par exemple, il peut répondre à certaines notions, les déformer, ce qui me paraît être pas assez souligné, c'est le travail textuel. Et le travail textuel, ça ne marche pas par on adhère à cette théorie, on n'y adhère pas. C'est-à-dire qu'il y a des signifiants qui peuvent jouer, qui peuvent jouer le contexte. L'intertextualité, ça ne marche pas parce que je suis pour, je suis contre. C'est un processus sur le signifiant qui est extrêmement compliqué et qui a très peu à faire avec l'intention. Très peu. Et qui a très peu à faire avec les idées. C'est-à-dire que.
Avec les idées, quand même, si un peu. Hein.
Là,
il est bien clair que j'ai pas du tout parlé du travail textuel, hein, pas du tout. C'était pas mon objet, hein, du tout.
Je crois qu'on prend simplement deux brèves questions de Françoise et de Raymond Pfeiffer ensuite.
Moi, je pense qu'on peut pas parler de théorie de l'image. On peut parler d'une conception de l'image. J'ai gardé le terme de théorie pour ceux qui véritablement, comme tel, font une théorie de l'image, la conception de l'image. Est-ce que tu travailles, est-ce que tu montres dans les textes non fictionnels, ce que tu as cité, vont permettre peut-être de se faire, de rétablir ce que pouvait être cette conception de l'image. Alors maintenant, j'entends très bien ton objection. Alors ça, c'est un autre séminaire, il faudrait vraiment peut-être une fois la voir. Ça me fait revenir en arrière, puisque tu as de nouveau fait allusion à ce que tu avais dit à propos de l'icône oraclant, la genèse d'une image. Cette genèse que tu as trouvée, qui, d'une manière vraiment certaine, vient du voyage en Orient. Alors, admettons, et je l'admets d'autant plus volontiers, que c'est un fact. Mais quand ça va apparaître au moment même de la genèse, c'est déjà préformé par toute une conception de l'imagerie religieuse. Hein. Et donc, la prostituée, elle va déjà apparaître de manière, évidemment, à la limite, sacrilège, en même temps, elle se marre parce que c'est une manière de désacraliser le sacré, etc. Mais il va la présenter, justement, à la manière d'une image religieuse. Donc, que ensuite, dans le texte, de l'éducation sentimentale. On retrouve ce schéma, ce préconstruit de l'image religieuse est intéressant. Indépendamment de la genèse, tu vois, de l'image première. À la limite, je dirais, je m'en fous, puisque de toute façon, l'une n'est pas première par rapport à l'autre, puisque c'est le préconstruit qui est première et qui les travaille toutes les deux. Donc si tu veux, à la limite, que l'une soit première par rapport à l'autre, je m'en fous par rapport à l'idée qu'il y a quelque chose avant qui se préconstruit de l'imagerie religieuse qui les traverse l'une et l'autre.
Oui, voilà, mais le problème, c'est que l'un sans l'autre, ça pose problème.
Non, c'est possible, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en amont.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que c'est une combinatoire qui fait sens. De toute façon, si on observe l'écriture et la charge de travail des campagnes d'écriture flaubertienne, on va vers une écriture qui est de plus en plus cryptée, donc où on peut être certain que, arrivé à peu près à l'âge de trois contes, on est à l'échelle du mot, chaque mot étant crypté au moins sur deux ou trois dimensions, parfois plus. Donc, Oui, oui, bon, mais d'accord, et bien sûr que c'est même l'image de la prostitution cachée ne prend toute sa puissance que confrontée et mariée d'une certaine façon à l'image religieuse, oui.
C'est ce que tu disais déjà pour toutes les images, elles sont déjà surdéterminées, l'image du paysage est déjà surdéterminée par une construction culturelle, par un dépôt culturel.
Et sur l'intertexte, question de Barbara. Je crois véritablement, quand même, là, il faut dire les choses nettement, clairement et fortement, que les moyens que la génétique offre à l'étude de l'intertexte sont infiniment plus grands que ce qu'offre l'étude textuelle. Excuse-moi. Si j'utilise les moyens du brouillon, des scénarios et des 10 campagnes d'écriture antérieures, je peux dégager dans l'œuvre la présence d'à peu près 10 fois plus de sources et 10 fois plus de travaux sur l'intertextualité que je ne peux en dégager sur le texte final. Tout simplement parce que une très grande partie du travail d'écriture va consister à les masquer, à les rendre invisibles ou à les métamorphoser de façon qui les rendent au total non décelables en fin de course. Bon, je serais absolument intransigeant là-dessus. Nous ne faisons pas de la critique des sources, ouais. Et le travail d'étude des processus d'écriture met à jour une sorte de, alors là, reprenons le polypier, d'extraordinaire faisceau hein, d'appropriation beaucoup plus importante que ce que le texte permet de voir au premier coup d'œil ou même au deuxième coup d'œil. Et il est très intéressant souvent de voir comment des prises, des captations intertextuelles ne marchent pas. C'est-à-dire qu'elles sont abandonnées. Pour quelles raisons elles sont abandonnées?
Donc le dernier mot à Helmut Pfeiffer.
Je n'ai rien à dire à propos du travail. C'est seulement une remarque. À propos de la métaphore du jeu d'artifice. Parce que là, il me semble que c'est une métaphore que Flaubert partage avec beaucoup de tellement trop, où la métaphore revient à plusieurs reprises. Et il me semble, on pourrait peut-être même dire, dans la ligne de ce que vous avez dit du rapport image-désir, que, en quelque sorte, utiliser une autre métaphore que certains. J'ai une métaphore absolue, c'est-à-dire une métaphore qu'on ne peut éviter pour articuler ce rapport très étroit entre l'image et le visible. L'image a toujours, vous avez donné des exemples, mais je dirais que c'est un aspect systématique de la théorisation de l'image au 19e siècle et aussi de sa mise en scène. Donc là, je dirais que Flaubert est assez proche d'une certaine.
Oui, oui, c'est assez
bon. C'est pas un hasard que Claude Simon, quand on peut parler de ça, il parle de la vue à
c'est un
jouer avec le jeu d'artifice qui toujours implique une relation du visible et de l'invisible, de la trace, donc du désir du corps.
Vous avez certainement raison. Et il y aurait beaucoup, beaucoup à dire dans ce domaine, puisque. C'est à plusieurs reprises à Louis Collet qui parle de ses explosions nerveuses en ces termes-là, et il en parle à un certain moment, une semaine après avoir partagé avec elle une nuit d'amour super fantastique, dont la seule image, la seule métaphore était le feu d'artifice dans une lettre précédente, et en plus ils ont vu un vrai feu d'artifice ensemble. Non, je crois que vous avez raison, c'est une métaphore sûrement très, très partagée, mais enfin qui revient systématiquement, et dans Madame Bovary, c'est mis en scène, dans la scène qui précède juste le suicide, dans la scène de folie d'Emma, comme quelque chose qui implique directement ce qu'il nous dit dans la lettre à Thèle, comme étant une maladie de la mémoire, une libération de globules, d'images mémorielles.
Très bien, je crois qu'il faut qu'on interrompe là la discussion, nous avons encore pris du retard.
Pardon.